Alors Jean-Lionel, ce matin, a parlé un peu aux enfants. Moi, je pense que je vais parler un peu à tout le monde, aux plus jeunes en particulier, mais aussi aux plus âgés. Ceux du milieu, ben, vous prendrez ce que vous pourrez. On va parler d'un verset que Paul donne à Timothée. Alors, s'il y a une épître que les plus jeunes chrétiens devraient lire pour orienter leur vie, c'est bien la première épître à Timothée. Et pour ça, j'ai vu trois raisons. La première, c'est qu'il s'adresse à un jeune homme. On estime qu'au moment où Paul lui a écrit cette épître, Timothée devait avoir la trentaine. La seconde raison, c'est que l'on ressent dans cette épître toute l'affection, mais aussi toute l'ambition que Paul a pour son jeune collaborateur, celui qu'il appelle aussi son enfant, Timothée. Elle peut être lue comme une lettre d'un père à son fils, un père soucieux que ce fils puisse consacrer l'essentiel de sa vie à ce qu'il y a de meilleur et de plus utile. Ce souci est certainement la raison pour laquelle cette épître est pleine de recommandations et de conseils de la part de Paul à Timothée. Puis la troisième raison pour laquelle un chrétien jeune devrait lire cette lettre et l'étudier est que, selon la suggestion de Paul, la valeur d'un chrétien ne dépend pas de son âge. Il est rare qu'à l'époque de Paul, un jeune ait autant de responsabilités dans une église et même dans plusieurs. Et pourtant, c'est le cas de Timothée. Timothée qui, selon ce que nous dit Paul, a fait l'objet d'un appel spécial pour entrer dans le ministère, ce ministère qu'il occupait. Par ailleurs, Paul rappelle à son jeune frère dans quelles conditions a eu lieu son envoi avec lui dans l'œuvre missionnaire. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Alors, bien que jeune, il était évident pour Paul que Timothée avait été préparé, mis à part par Dieu, pour une mission et un rôle particulier, un peu comme Jérémie dans l'Ancien Testament. Timothée avait un don reconnu par tous, certainement celui de l'enseignement, puisque c'est l'activité à laquelle Paul l'appelle à se consacrer le plus. Son envoi en mission avait reçu le plein accord du collège d'anciens de son église. La valeur n'attend pas le nombre des années, faisait dire Corneille à Rodrigue, vous savez, dans le Cid. Et s'il y a un homme qui prouve bien que dans l'œuvre de Dieu, la valeur n'est pas liée à l'âge, c'est bien Timothée. Que Dieu puisse en susciter beaucoup d'entre nous. Alors cette lettre, les chrétiens jeunes devraient la lire et la méditer pour viser juste, entrer dans le bon combat et servir la cause la meilleure, la plus utile pour leur vie. C'est bien cette lettre-là qu'ils devraient lire, ces conseils de Paul à Timothée. Et dans ce cadre, je voudrais revenir sur deux paroles de Paul. D'abord, que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, s'il y a une chose que nous, les vieux, parce que, bon, je suis plus tout jeune, nous n'aimons pas trop, c'est bien qu'un jeune nous dépasse et nous fasse la leçon. Vous vous souvenez de Élihu ? Ça vous dit quelque chose, Élihu ? Dans le livre de Job ? Cet ami de Job le plus jeune des amis de Job, qui ne s'était pas permis d'adresser tout de suite la parole à Job. Sans doute respectait-il son âge et sa souffrance. Mais le livre de Job nous donne une autre raison de son silence face aux trois autres amis. C'est dans Job 32. Élieu prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Alors avant qu'il ne parle, Élieu croyait à un principe, pas toujours faux d'ailleurs, qui est qu'avec les années d'expérience viennent aussi la sagesse. Mais à l'écoute des arguments des trois amis de Job, beaucoup plus âgés que lui, il a dû se rendre à l'évidence que cette idée-là n'était pas forcément automatique. Aussi, il nous révèle une grande vérité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Or, si l'âge et l'expérience peuvent procurer tout de même une certaine sagesse, nous qui sommes les plus âgés, on ne doit pas faire preuve de vanité à ce sujet. Ce n'est que dans la mesure où nous sommes inspirés par Dieu que nous sommes sages. Et les amis de Job l'ont appris à leurs dépens. Avec l'âge, le risque est grand de prendre les idées toutes faites qui nous habitent depuis longtemps comme des vérités intangibles. Or, les amis de Job, ils avaient appris certaines choses dans leur vie. Du genre, le péché entraîne la punition de Dieu, et donc le malheur. Ils pensaient que dans tous les cas, quand un malheur se produit dans la vie d'un croyant, cette règle s'applique. Et ici, elle ne s'appliquait pas. Le malheur et la souffrance ne sont pas toujours provoqués par le péché. Cependant, l'expérience n'est pas à jeter aux orties. L'expérience est bonne. Elle nous apporte sans conteste, au cours des années, sagesse et discernement. Mais elle comporte aussi, et nous le voyons ici, un danger. Celui de penser qu'à cause de ce que nous avons acquis, nous savons et nous n'avons plus rien à apprendre, en particulier de ceux qui sont plus jeunes, en âge et dans la foi. En réalité, dans l'homme, disait Élieu, avec raison, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, et rien d'autre. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de ne pas accepter le mépris de ceux qui, à cause de sa jeunesse, pourraient mettre en doute ses compétences et sa crédibilité. Alors qu'ils se souviennent, ces hommes qui se disent mûrs, qu'il ne faudra pas plus de 12 années à notre Seigneur Jésus pour démontrer qu'il possédait, par le Saint-Esprit, plus de sagesse que tous les docteurs réunis à Jérusalem. Alors le mot que Paul écrit à Timothée vaut pour nous qui sommes déjà âgés ou anciens dans la foi. Que personne, sous prétexte d'années ou d'expérience, ne méprise la jeunesse, ou les jeunes que Dieu, de manière manifeste, appelle et prépare pour son service. Alors ne réagissons pas parce que nous les voyons nous dépasser dans la foi, la connaissance, le courage ou toute autre vertu. Ne réagissons pas comme le fit Eliab. Eliab, vous savez qui c'est aussi, Eliab ? Oui ? Qui c'est Éliab? Éliab, c'était le frère aîné de David, qui, lorsque David se présenta pour combattre Goliath, entendit de lui: « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Pitoyable, Éliab. Éliab qui ne voit pas que son jeune frère David n'est pas une menace, mais qu'il était envoyé par Dieu pour délivrer Israël de Goliath. Et face à sa réaction, David ne pourra faire qu'une chose. David répondit: « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui. Nous qui sommes plus âgés, nous ne nous comportons jamais de façon à ce que les jeunes se détournent de nous. Alors, quelques questions pour en finir avec ce point-là. Nos jeunes ont-ils la liberté de venir vers nous, plus anciens, avec leurs questions et avec leurs projets, quelquefois dérangeants? Sommes-nous d'accord que malgré les années et les expériences, nous qui sommes les plus âgés, n'avons pas toutes les réponses? Ou que certains jeunes puissent avoir compris des choses que nous-mêmes n'avons pas encore saisies? Sommes-nous prêts aussi à reconnaître les dons que Dieu a pu développer à certains plus jeunes et, comme Paul, à les encourager, à les développer, à les pratiquer? Sommes-nous enfin prêts, comme le fera Jean-Baptiste pour Jésus, que certains de ceux qui arrivent après nous soient plus grands que nous et que pour leur faire une place, il faut que nous diminuions? C'était la première parole de Paul à Timothée dans ce verset. Elle était adressée à Timothée, mais je pense plutôt aux plus âgés. La seconde: sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. La seconde proposition est certainement nécessaire pour que la première soit vérifiée. Sois un modèle et personne ne méprisera ta jeunesse. La jeunesse, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, c'est comme l'aurore. Elle n'est que vanité ou vapeur. La jeunesse passe vite. À peine étant majeur que déjà les problèmes et les questions de l'adulte se posent. Que sera ma vie? Vais-je me marier et avec qui? Quelle profession choisir? Et puis bien d'autres questions. Alors, quoi que nous puissions espérer ou planifier, vous ferez tous par expérience que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. Et comme chrétien encore jeune, que pouvez-vous entreprendre qui en vaille vraiment la peine? Que pouvez-vous rechercher qui, et vous pouvez en être sûr, ne sera pas perdu, mais tôt ou tard finira par payer et porter du fruit? Pour y répondre, Paul dit ici: sois un modèle pour tous les croyants. S'il peut arriver parfois, à juste titre, d'avoir la crainte que certains de ceux qui assument des responsabilités dans l'Église deviennent orgueilleux, il y a une crainte que Paul ne connaissait pas, qui peut aussi paralyser et porter préjudice à la croissance de tous. C'est celle de jouer un rôle de modèle, un modèle pour les autres. Alors, ça ne sera peut-être pas du temps perdu ce matin de démystifier ce rôle de modèle comme il nous est présenté dans la Bible. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors, on pourra en donner plusieurs définitions. Un modèle, c'est quelqu'un qui, dans sa façon d'être et de se conduire, est un exemple à suivre. S'il y a de nombreuses choses que Jésus a faites uniquement dans le but de manifester qu'il était Dieu, il faut aussi noter qu'en tant que maître et donc formateur, le but de Jésus aura été d'être un modèle pour ses disciples. Il leur dira clairement, peu avant sa mort, le jour où il les réunit pour leur laver les pieds. Après qu'il eut leur lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur ? Et vous dites bien parce que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Tout comme Jésus, l'apôtre Paul comprenait que l'une de ses missions les plus importantes était d'être un modèle à suivre et à imiter par les autres. Il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il le dit à deux reprises aux Corinthiens. Et puis aux Philippiens « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. » Aux Philippiens, Paul ne se contente pas de dire qu'ils doivent l'imiter. Ils doivent aussi imiter toute personne qui, parmi eux, marche selon le modèle qu'il leur a donné. Il n'est absolument pas dans la pensée de Dieu que nous nous comportions dans notre vie chrétienne comme des autodidactes, comme des hommes qui peuvent tout apprendre par eux-mêmes sans avoir besoin des autres pour s'en inspirer. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ce que Paul dit aussi aux Philippiens. Alors la vie chrétienne consiste à être, bien sûr, des disciples de Christ, mais aussi d'une certaine manière, des imitateurs d'autres chrétiens. Puis un modèle, c'est quelqu'un qui, pour nous, est une référence, un point de repère, une source d'inspiration. Et pour cela, il n'est pas nécessaire que ce modèle soit près de nous, qu'il soit vivant. C'est ce que nous laisse entendre Ésaïe lorsqu'il s'adresse aux Israélites et les invite à une vie juste. C'est Ésaïe 51. Écoutez-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul j'ai appelé, j'ai béni et multiplié. Portez vos regards sur Abraham et Sarah, ceux qui étaient morts depuis longtemps. Alors, outre le fait que la Bible, parole de Dieu, est inspirée, elle est aussi un livre qui nous cesse de présenter à notre regard, à notre foi, des modèles censés nous enseigner, nous inspirer. Quelqu'un passe-t-il par une période difficile au cours de laquelle tout semble aller mal, qu'il étudie la vie de Joseph, le fils de Jacob, pour voir comment Dieu, qui malgré les apparences, conduit toutes choses pour sa gloire et le bien de son peuple. Quelqu'un est-il confronté à un harcèlement d'ordre sexuel, un harcèlement qu'il met en danger, qu'il regarde aussi la vie de Joseph, la façon dont il a agi face à la femme de Potiphar. Quelqu'un a-t-il affaire à un supérieur jaloux? Un supérieur qui ne pense qu'à avoir sa peau? Qu'il regarde au modèle qu'a laissé David pendant ces 13 années où il a été poursuivi et harcelé par Saül. Quelqu'un est-il découragé, sur le point d'abandonner parce que sa tâche lui paraît trop difficile? Qu'il regarde à Élie après l'épisode du Carmel et qu'il considère de quelle manière Dieu a pris soin de lui pour le restaurer et le relever. Et on pourrait continuer longtemps, je pense, ainsi. Plus près de nous, cependant, Dieu a suscité pour chacun de nous des modèles passagers peut-être, desquels il nous demande de nous inspirer. Des hommes de Dieu remarquables nous ont précédés. Leur biographie est là pour nous dire de quelle manière Dieu, dans sa fidélité, les a portés, équipés, secourus, qualifiés pour l'œuvre à laquelle il les destinait. On peut penser à Hudson Taylor, à Spurgeon, enfin à bien d'autres. Puis il y a les modèles que Dieu met près de nous, plus modestes peut-être, mais qui sont de vrais exemples pour nous en parole, en conduite, en amour, en confiance en Dieu, en pureté. Les saints domaines dans lesquels Paul appelle Timothée à être un modèle, on pourrait bien sûr en ajouter d'autres. Pour ma part, je ne peux que remercier Dieu pour les modèles qu'il a mis près de moi au cours de toutes les premières années de ma vie chrétienne. Je pense en particulier à Ralph Chalice, mais aussi à bien d'autres. As-tu des modèles qui t'inspirent? Des chrétiens qui sont stimulants pour ta vie, qui te donnent le goût de marcher avec Dieu et de t'attacher à lui. Souvenez-vous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, regardez l'issue de leur vie, imitez leur foi. Notons qu'il est écrit, qu'il n'est pas écrit « imiter leurs œuvres », il est écrit « imiter leur foi ». Et puis un modèle, c'est quelqu'un qui, à nos yeux, a fait ses preuves dans la vie, dans le ministère qu'il a rempli, c'est quelqu'un de crédible. Alors après que Paul ait dit dans cette première lettre à Timothée d'être un modèle pour les croyants, dans la seconde, il dira « Efforce-toi de te présenter comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de vérité. » Alors le monde en général, le monde évangélique en particulier, regorge de personnes qui, peut-être animées de bonnes intentions, se veulent être conseillères pour les autres. Exigeons d'elles pour qu'elles soient un modèle dont nous puissions nous inspirer, qu'elles nous montrent dans leur vie et leur expérience les preuves de ce qu'elles conseillent. Il se peut par exemple que quelqu'un a eu du succès dans l'évangélisation en Afrique, en Asie ou aux États-Unis et qu'il veuille se présenter comme modèle à suivre. Pour ma part, je pense que si je dois trouver un modèle inspirant, j'aimerais mieux me tourner vers un frère qui a travaillé dans mon pays et où il a fait ses preuves. Ça ne signifie pas que j'ai rien à recevoir des autres, mais qu'à choisir. Je pense qu'il est préférable d'avoir un modèle qui ait fait ses preuves dans le même contexte que le mien, plutôt que dans un autre bien différent. Alors, pour conclure, ai-je l'ambition d'être un modèle pour quelqu'un? Si je suis père ou mère, quel modèle suis-je pour mes enfants? De quoi se souviendront-ils le plus à mon sujet? Il y a-t-il dans ma vie des personnes qui ont été des modèles inspirants, des points de référence pour mon parcours? Et en quoi suis-je aujourd'hui leurs imitateurs? Est-ce que je connais bien les modèles à suivre que me présente la parole de Dieu? Est-ce que je les étudie sérieusement pour m'en inspirer? Pour arranger un peu un proverbe, dis-moi qui tu suis, suivre, je te dirai qui tu es. Que Dieu nous donne la grâce, à travers les modèles qu'il met devant nous, de marcher sur les traces de Jésus-Christ, le modèle de tous les modèles. Amen. On pourrait chanter « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». On sait faire ça ?